Politique éthique, l'émission qui traque l'impact de la tech à travers ses tocs. Une émission propulsée par Radio Alto, animée par Héloïse Pierre, d'Etikia.fr. Freedom, 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 freedom.
À l'heure de la crise sanitaire, la France bascule dans un état policier. Et c'est l'occasion pour les forces de sécurité de déployer massivement leurs derniers gadgets sécuritaires. À travers le pays, la police déploie des drones pour contrôler l'application du confinement. Non seulement pour diffuser par haut-parleur les directives du gouvernement, mais aussi pour surveiller la population, en orientant les patrouilles au sol et même en filmant celles et ceux qui leur échapperaient pour mieux les sanctionner après. Ce déploiement inédit ressemble à une gigantesque opération de communication des autorités qui mettent ainsi en avant leur arsenal technologique. Cette crise est instrumentalisée pour banaliser l'utilisation d'un outil de surveillance pourtant extrêmement attentatoire à nos libertés. Et le tout dans un cadre juridique flou, voire inexistant. L'État profite ainsi de l'état de sidération pour imposer cette technologie policière. Voici comment commence l'article publié sur le site Technopolis et de la Quadrature du Net ce mois d'avril. Alors, pour cette émission de Tic et Tic, nous recevons pour parler de l'état Technopolis et des drones, Sylvain Stier, membre entre autres de la Quadrature du Net, mais également auteur du guide de survie à destination des aventuriers d'Internet, a suivi le dossier des drones qui s'est passé là pendant le confinement 2020. Alors première question Sylvain, avant de parler de l'action que vous avez menée de front avec la Ligue des droits de l'homme contre les drones, que tu peux revenir sur ce qu'il s'est passé justement sur ce dossier de l'attaque des drones?
Je peux revenir un peu dans le temps sur les drones. Donc nous c'est un dossier qu'on a dans la question des drones policiers, donc l'utilisation des drones. Alors là on parle pas des drones qu'on peut envoyer sur les zones de conflit à travers le monde, mais vraiment de petits quadricoptères qui peuvent être utilisés par la police. Et donc en fait c'est pas arrivé pendant le confinement. On a déjà l'utilisation de ce type d'outils par la police, mais en fait sur des moments très limités avant le confinement, qui était par exemple dans le contre-sommet du G7 l'été passé, ou alors sur les zones de passage depuis un bon moment, notamment autour de Calais ou pour le contrôle des campements, on avait déjà des usages, et aussi par exemple dans les grandes manifestations parisiennes sur les retraites, etc., où on commençait à avoir la police qui déployait des drones pour en fait avoir une vue aérienne de ce qui se passe et faciliter leur travail.
Donc dans les manifestations, par exemple, comme les manifestations de la retraite, les drones étaient utilisés de quelle manière ou à quelle fin par les forces de l'ordre?
À quelle fin, je peux répondre très largement de contrôle policier, mais à quelle fin particulièrement, ça je ne saurais pas te répondre, mais en tout cas, oui, il y avait des drones de la police qui survolaient les cortèges des manifestations dans le cadre, notamment dans le cadre des mobilisations contre la réforme des retraites. Mmh. Et notamment une petite blague, enfin, nous, ce sujet nous intéresse, enfin, nous inquiète hein, plutôt que nous intéresse depuis un moment, mais en fait, justement, il y a eu dans le cadre de ces manifestations, il y avait des goélands, il y avait des mouettes qui étaient en fait en train de dans des périodes de reproduction, des choses comme ça, et qui en fait n'étaient pas très contentes de partager leur espace aérien avec ces drones et qui les attaquaient pendant les manifestations. Donc on a des images assez cocasses d'une manifestation où il y a effectivement un goéland qui est en train de s'en prendre à un drone de la police. Voilà, donc, c'est quelque chose qui a posé beaucoup de problèmes à la police, qui a été obligée d'essayer de voir avec la Ligue de protection des oiseaux comment éviter ce problème, etc. Donc ce qui nous est devenu un peu une petite blague en termes de au sein de la quadrature où effectivement remercier les goélands pour leur opposition à ce déploiement. Donc c'est pas nouveau l'utilisation des drones par la police. Par contre, c'était resté effectivement limité à des populations auxquelles tout le monde, enfin voilà, ça concernait pas tout le monde. Ça concernait les militants politiques en manifestation, les gens qui cherchaient à passer de la France à l'Angleterre dans les zones de passage, et éventuellement les militants et les personnes qui les aidaient sur place ou même sur d'autres zones de passage. Voilà, ça restait à des populations, on va dire ça concernait pas toute la population, ce qui posait pas moins de problèmes. Par contre, ce qu'on a vu effectivement arriver avec le confinement, c'est dans plein d'endroits de France, la police a vraiment mis en œuvre tout leur arsenal de drones quasiment autant que possible. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas non plus des milliers des drones, mais chaque grande ville, enfin en tout cas différentes grandes villes, ont clairement profité du fait que y avait assez peu de personnes dans l'espace public, et aussi qu'il y avait cette espèce d'état de sidération lié au confinement et lié à la problématique sécuritaire de effectivement rester chez vous, rester confiné, etc., pour lourdement en fait déployer les drones dans l'espace public. Alors aussi bien par exemple pour hurler sur les personnes qui se baladaient dans la rue avec des haut-parleurs mis sur ces drones pour leur dire de rentrer chez eux, mais aussi effectivement comme tu l'évoquais dans ton introduction pour aller voir dans les zones interdites au public, les parcs, etc., qui avaient été fermés. On pourrait largement discuter de la bonne justification de la fermeture de ces parcs, mais en tout cas qui avait été fermé pour voir s'il n'y avait pas des personnes dans ces parcs, ou éventuellement pour des personnes qui potentiellement n'auraient pas respecté les consignes du confinement et seraient sorties sans attestation ou autre, faciliter leur interpellation et leur sanction. Et en fait, ça c'est devenu rapidement massif. On a un rapport sénatorial sur certaines mesures qui ont été mises en place dans le cadre du confinement, et on a effectivement en gros, un peu moins de 600 vols de drones sur dans le courant du mois d'avril, dont 300, moitié-moitié pour des opérations de rappel de la loi ou pour des opérations de surveillance. Donc, quelque chose qui est devenu extrêmement, qui a été utilisé par de nombreuses villes de France, et nous, on a vu, dès le début du confinement, apparaître les articles les uns après les autres sur l'emploi des drones. Donc, clairement, une volonté de banalisation de cet usage qui, avant, était resté ultra minoritaire, qui n'était pas encore dans les mœurs de la police. Donc ça a permis notamment, alors je suis désolé, le tunnel est un peu long, mais à la police de s'entraîner avec ces outils, parce que s'il n'y a personne en dessous, ça permet qu'il y ait un problème, c'est moins grave, de voir ce qui était possible, de s'y habituer, de se former, et aussi d'utiliser cette espèce de pouvoir à distance de ces outils qui permettent de faire du contrôle sans être directement présent.
Mmh. Ouais, ça me fait penser qu'à chaque crise, qu'elle soit là, sanitaire ou parfois d'autres crises comme les attaques terroristes sont passées. En tout cas, chaque moment de crise, souvent, sont des portes, des brèches pour monter d'un cran plus de contrôle social, comme tu le disais. Là, le confinement aussi, j'ai l'impression.
Ouais, ça, il est assez juste. C'est qu'effectivement, les moments de crise, les moments de tension, la tension, elle essaye de se résoudre d'un côté ou de l'autre, et qu'il y a des personnes qui essayent effectivement d'en profiter pour tirer de leur côté. Alors ça peut être pour essayer de faire aller les choses dans le bon sens, en termes d'éthique, en termes d'amélioration de la justice sociale, etc. Mais effectivement, ça peut aussi être à des fins sécuritaires. Et typiquement, on en reparlera avec Technopolis, mais pendant le confinement, nos fleurons des outils technologiques de contrôle sont pas privés pour essayer de vendre autant que possible leurs solutions. Il y a vraiment des sociétés qui ont clairement réagi assez rapidement à la problématique de la crise sanitaire pour essayer de vendre leurs solutions de contrôle à qui voudrait bien les acheter et lourdement insister. Et oui, effectivement, on constate, alors nous c'est ce qu'on appelle un peu l'effet cliquet, mais c'est que dans ces moments de crise, alors particulièrement dans les cas des crises terroristes, mais on a des réactions sécuritaires, et que ces réactions sécuritaires, l'état d'urgence, la loi renseignement après les attentats de Charlie Hebdo, etc., ils arrivent à un moment de forte émotion et ils sont facilement adoptés grâce à cette forte émotion, grâce à cette espèce de moment de sidération dans la société française, mais on les remet derrière plus jamais en question. Ils sont adoptés, soi-disant pour lutter contre le terrorisme, etc., mais quand bien même le terrorisme, notamment le terrorisme islamiste, est en train de péricliter quand même, est en train de diminuer fortement, pour autant, on n'est pas en train de remettre ces dispositifs en cause. Le plan Vigipirate a, par exemple, jamais été remis en cause. Il est toujours là. Il vient à la base, il a été justifié par un moment d'intense émotion, mais il a perduré depuis et il a instauré une culture qui n'a pas été remise en cause.
Mmh. En effet, à chaque fois, en fait, ce qui doit être événementiel s'installe durablement dans la société et on s'y habitue aussi en tant que citoyen. Alors, pour revenir sur les drones, avant, en effet, de parler du mouvement Technopolis que la Quadrature a lancé, mais qui est aussi ouverte à d'autres organisations. Alors, en France, apparemment, du coup, il y a eu 600 nouveaux drones, commandes en tout cas de 600 nouveaux drones du printemps là, 2020, ce qui aurait doublé, on va dire, la flotte des drones en France.
Ouais, le marqueur est important. Pendant le confinement, il y a bien des personnes qui ont relevé que au 1er mars, donc alors que la crise sanitaire était déjà, on n'avait pas encore décrété le confinement, mais la crise sanitaire était déjà présente, que le 1er mars, il y avait un marché public qui avait été ouvert pour des LBD, pour des grenades lacrymogènes, enfin bref, pour une quantité assez conséquente d'armes policières pour faire du maintien de l'ordre. Au lieu d'acheter des masques, hein, voilà, au lieu de se préparer sérieusement à l'accès sanitaire médical, pareil, effectivement, mi-avril, on a un appel d'offres, du ministère de l'Intérieur pour multiplier fortement sa flotte de drones avec des drones, des très petits drones, enfin bref, un développement très conséquent, effectivement, du champ, de la quantité et des capacités des drones dont dispose la police.
Oui, en effet, parce que du coup, moi, quand j'ai vu un petit peu du coup ce dont il s'agissait, sur les 600 drones, il y en avait 665 qui sont appelés un peu des micro-drones du quotidien, qui du coup, voilà, comme vous le soulignez justement, le nom même de ces drones trahit un peu la volonté politique de banaliser la surveillance aérienne et de l'inscrire vraiment dans la durée. Mais du coup, en effet, que la commande passée était pour justement avoir des drones qui permettent une discrétion visuelle et sonore, tout en assurant une capacité de reconnaissance humaine à hauteur de vol de 100 mètres. Il y avait même, on parle aussi même de 66 drones de capacité nationale, alors peut-être que tu pourras me dire de quoi il s'agit, et de 20 nanodrones. Donc je pense que voilà, nanodrones, on parle de quoi là ?
C'est des outils vraiment très petits qui peuvent ne pas être perçus potentiellement par les individus, alors que voilà, les gros quadriptocoptères sont forcément visibles. Les nanodrones, on parle de choses qui peuvent potentiellement faire moins que la taille d'une main, voire même moins que la taille d'un doigt, quoi. Mm-hmm. Qui ne vont pas forcément être percevables, alors qu'ils ne font pas les mêmes opérations, mais effectivement qui ont... Je pourrais pas te rentrer dans le détail de quel modèle ça fait, etc. Je suis pas du tout ma spécialité, mais voilà, effectivement une volonté assez marquée du gouvernement de continuer d'utiliser ces outils et de renforcer l'usage de ces outils. Donc quelque chose qui nous alarme beaucoup. Donc là, il y a vraiment profité un peu de cette sidération pour continuer, pour expérimenter, pour montrer leur place dans l'espace public, etc. Et puis derrière, pour continuer sur cette lancée de faciliter le contrôle par la voie aérienne en utilisant les drones. Et ça c'est certain, et ça nous pose de gros problèmes, parce qu'effectivement, entre un contrôle fait par des policiers, donc avec un poids humain, etc., le drone, il a des capacités qui sont assez différentes. Déjà, une vidéosurveillance qui va être constante, une possibilité d'accéder à des endroits auxquels les policiers n'auraient pas accès, notamment des endroits qui sont protégés par des règles, par les règles sur la propriété privée, et qui font, typiquement, normalement, il faudrait une perquisition, etc., alors que là, voir dans les jardins, voir au travers des fenêtres, etc., quand bien même ce serait pas directement légal, c'est devenu possible par l'utilisation de ce drone, etc., etc. Il y a effectivement un développement des capacités de contrôle que peuvent permettre ces outils qui sont assez conséquents et qui n'ont pas été du tout discutés, qui visent vraiment à renforcer la capacité, le pouvoir des forces de l'ordre et la capacité de l'État à contrôler tout le monde. Donc aussi bien les personnes qui effectivement pourraient faire des choses qu'on considérait comme malveillantes à la fin de la société, aussi bien les opposants politiques, aussi bien toutes les personnes qui ne les arrangent pas. Et ça, sans vrai débat public, sans vraie réflexion.
C'est ce qui vous a donc incité une fois de plus, parce que voilà, s'il y a bien des gens qui ne sont pas au chômage en ce moment, c'est la quadrature du net, les défenseurs des libertés. Voilà, je pense que vous croulez un petit peu.
Sur le début du confinement, on s'était dit effectivement, enfin, une petite baisse d'activité, mais après, on a dû y revenir. Alors, il y a eu pas mal de membres bénévoles qui sont beaucoup impliqués pendant la campagne, pendant le confinement. C'est ça qui nous a décidé à agir en justice. Alors en fait, c'est pas que ça, c'est l'action en justice contre les drones. Enfin voilà, nous, faire interdire les drones, repousser les drones, c'est dans les cartons, on a envie de le faire depuis un moment. Mais les subtilités, en fait, on va dire des contentieux, sont pas si évidentes que ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'on attaque, il faut avoir un acte à attaquer, savoir comment l'attaquer, c'est des angles stratégiques qui sont pas toujours simples. Et donc là, notamment, on a dû s'appuyer sur un papier de Mediapart qui révélait des instructions préfectorales sur la question pour avoir un acte administratif à attaquer dans le cadre de l'état d'urgence. Voilà, donc on a trouvé un angle d'attaque qui était pertinent sous l'angle judiciaire et il nous semblait pouvoir prospérer et pouvoir aboutir à effectivement la fin de l'utilisation des drones. On attaquait la préfecture de police de Paris. via cet ordre de déploiement, des drones, en considérant effectivement que c'était sans base légale et avec assez peu de proportions. En fait, la problématique qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de législation spécifique sur l'utilisation des drones par la police, quand bien même il pourrait y en avoir pour les caméras piétons, par exemple, donc les caméras qu'ont portées les policiers. Bah, les drones, quand bien même ils vont avoir des possibilités de vidéosurveillance et une vidéosurveillance constante, il n'y a pas de législation spécifique. Donc ça s'appuie sur les règles juste de survol des drones par les villes, donc notamment ils font une autorisation préfectorale, donc qui pose assez peu de problèmes à la police. Et en fait, on a attaqué en considérant qu'il y avait un problème là sur les questions de données personnelles. Alors pour, je ne sais pas si tu as une question, mais sinon pour faire le déroulé un peu judiciaire, donc c'est ce qu'on appelle, en gros, c'est une demande en référé, donc une demande en urgence. On est dans le cadre du confinement, il y a le déploiement de ces outils qui nous pose un problème en termes de liberté fondamentale. Donc on a demandé au tribunal administratif de Paris de reconnaître que la décision préfectorale du déploiement et de l'usage des drones était illégale, était problématique. En l'occurrence, le tribunal administratif de Paris a été très peu sensible à notre demande et nous a envoyé bouler à rejeter notre recours, mais en trahissant le droit à tous les niveaux. Ça veut dire qu'il dit, en gros, il n'y a pas de traitement de données à caractère personnel, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà, comme s'il n'y avait pas de caméra, comme s'il n'y avait pas de problème. Donc vraiment, la décision du tribunal administratif de Paris est extrêmement mauvaise en droit. Enfin voilà, je ne sais pas comment le juge qui l'a rendu peut considérer. Voilà, il voulait clairement ne pas faire la charge de trouver comment quand même valider la pratique de la préfecture de police de Paris. C'est un jugement de valeur que j'aimais, mais je peux le tenir. Mais une très très mauvaise décision. Et donc, assez rapidement, on est toujours dans du référé liberté, donc on a la possibilité d'aller devant le Conseil d'État pour contester la décision du tribunal administratif de Paris. Et donc, effectivement, on a porté cette affaire devant le Conseil d'État, qui, lui, nous a donné raison. Donc, on est toujours en situation de référé, donc on est en train d'examiner, est-ce que, dans l'urgence, est-ce que cette décision administrative de la préfecture de police de Paris de faire voler des drones dans le cadre du respect du confinement, en fait, avait l'air d'être légale ou pas. Et effectivement, le Conseil d'État nous a confirmé que ça s'appuyait sur une absence de cadre légal et que ça posait de gros soucis en termes de liberté. Donc, demande à ce que les drones ne soient plus utilisés et invalide cet ordre de la préfecture de police de Paris, clouant ainsi les drones parisiens au sol, dans le cadre du respect du confinement. Mais en réalité, c'est une décision qui peut tout à fait s'appliquer à toutes les autres villes de France qui ont utilisé à peu près les mêmes processus, qui ont utilisé les drones pour faire de la surveillance, pour faire du contrôle, etc.
Et pour cela, il faudrait qu'il y ait des actions dans chaque ville de France ou comment
Alors, il pourrait y avoir des actions dans chaque ville de France, mais en fait, la décision du Conseil d'État, elle est déjà là. Donc, toutes les villes de France doivent considérer que c'est l'état de l'art en matière juridique, que sans un acte réglementaire du pouvoir exécutif, à l'heure actuelle, utiliser les drones à des fins de vidéosurveillance, à des fins de contrôle policier, n'est pas légal. Voilà, donc non, il n'y a pas besoin, normalement, cette décision, elle trouve à s'appliquer dans toutes les villes de France.
Mais alors, et dans les faits, est-ce que c'est le cas? Est-ce que, dans les faits, l'assurance que, du coup, les drones sont cloués au sol dans les autres villes?
On a vu au moins quelques soubresauts depuis cette décision. Il y a 2-3 articles où, apparemment, il y a eu encore usage de drones. On peut dire que ça peut être un peu une période tampon. Mais il y a aussi le côté qu'on est sorti du confinement. Donc la situation n'est pas si... les usages n'auraient pas forcément perduré par eux-mêmes hors du confinement si facilement ou autre. Mais voilà.
Et donc, alors, malheureusement...
Pas sûr que toutes les villes aient bien entendu la leçon, mais elle est là. Elle est là et on peut la répéter. Il n'y a pas de problème. Et ça peut être réattaqué sans problème.
Et voilà, donc c'est quand même une victoire à remarquer et à souligner. Mais tu me disais que c'était peut-être pas suffisant pour l'usage des drones d'une manière générale dans ce qui pourrait suivre ou...
En France, en réalité, effectivement, le Parlement... Alors là, ce que dit le Conseil d'État, il n'y a même pas besoin de passer par une loi, mais le gouvernement a beaucoup de pouvoir. Et le gouvernement est aligné en plus avec le Parlement, donc avec le pouvoir législatif. Donc les personnes qui sont à la tête du pays ont en fait énormément de pouvoir. Donc si à partir d'un moment, ils veulent faire voter une loi qui dise la police peut utiliser les drones qui fait ça, il y a des libertés fondamentales qui peuvent limiter ça, mais c'est pas une barrière infranchissable. Et là, effectivement, ce que dit le Conseil d'État, c'est que si le gouvernement veut faire des drones policiers, il va devoir prendre un acte réglementaire, donc un acte sur lequel va s'appuyer l'usage des drones policiers. Après, cet acte réglementaire, il doit qui doit s'insérer dans les règles applicables. Donc en matière d'usage policier, c'est notamment à l'échelle européenne la directive police-justice. Donc c'est une directive qui a été prise la même année que le règlement général sur la protection des données en 2016, mais qui s'applique aux usages policiers, on va dire, sur les données personnelles, mais dans le cadre des usages policiers. Donc il y a quand même des questions de proportionnalité, de nécessité, etc. Donc il peut pas faire n'importe quoi, et on sera bien évidemment, si le gouvernement prend un décret pour redéployer les drones policiers, bah bien évidemment on va examiner le décret et on fera ce qu'on peut pour limiter le maximum ces outils de contrôle. Mais voilà, au moins il va devoir poser un cadre légal par le biais d'un acte réglementaire et assumer effectivement ça. C'est pas juste un truc qu'on va faire comme ça a été fait pendant le confinement, ça a vraiment été fait un peu par défaut. On n'y réfléchit pas, on a des drones, on les a achetés, on les utilise, on continue à les utiliser. C'est normal, ça va dans l'ordre des choses. Bah non, en fait, c'est pas comme ça, quoi. Mais effectivement, si le gouvernement d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe veut à tout prix mettre des drones, bah, à force de textes réglementaires législatifs, ils pourront le faire.
Parce que d'ailleurs,
avec des limites de droit européen et de liberté fondamentale, hein, mais qui permettent pas tout, quoi. Qui permettent pas de dire non, on peut pas utiliser les drones policiers dans aucun cas.
Alors, malheureusement, les drones ne sont qu'une partie, je dirais, de l'infrastructure de ce que vous nommez la technopolice. Mm-hmm. Et ce que je trouve très intéressant, et là, ce qui peut être intéressant aussi à entendre, donc ouvrez les écoutilles, cher éditeur, c'est qu'on parle pas là de pays comme la Chine ou d'autres pays. Vous parlez véritablement de ce qu'il se passe concrètement en France. Est-ce que tu peux nous parler de ce mot technopolis et puis même ensuite du mouvement que vous avez lancé avec la Quadrature?
Ouais, alors le mot technopolis, on se l'est entre guillemets approprié, mais malheureusement, il vient pas de nous. Hein. C'est qu'il y a vraiment des entreprises et il y a une espèce de rassemblement tous les ans, une espèce de colloque technopolis d'entreprises qui vendent des outils techniques de surveillance, de contrôle. Et donc, on a une industrie et donc des fleurons français. Alors, on n'est pas les seuls pays à faire ça bien. L'État d'Israël a aussi pas mal d'entreprises qui vendent des outils de surveillance technologique, les États-Unis aussi. Mais on a aussi quelques fleurons français qui vendent des outils numériques de contrôle. Alors, qui peuvent avoir plein d'aspects différents. Mais on a constaté, mois après mois, un développement, effectivement, de volonté d'entreprises qui vont démarcher des municipalités, alors plutôt des grosses ou moyennes municipalités, hein, on ne parle pas forcément de villages, mais pour aller essayer d'expérimenter des outils de surveillance. Alors il y a une ville qui est très connue pour ça et qui est très friande, hein, qui est Nice, qui est la ville de Christian Estrosi. Christian Estrosi qui effectivement est dans une logique sécuritaire assez poussée et qui notamment par exemple a déployé, pareil en lien avec une entreprise, une expérimentation de reconnaissance faciale pour dans le cadre du carnaval de Nice, alors qui était limité à des caractères d'expérimentation, etc. Mais on voit bien déjà il y a un début d'essayer d'accoutumer à la logique de la reconnaissance faciale à des fins de contrôle dans l'espace public, qui pareil quelques temps après a voulu faire une expérimentation là pour contrôler l'accès à des lycées à Nice et à Marseille, et c'est Eucalyptus et Ampère à Nice et à Marseille, donc reconnaissance faciale pour contrôler les entrées et sorties des lycéens dans le lycée. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a attaqué et on a gagné devant le tribunal administratif de Marseille. On a fait reconnaître que cette expérimentation était illégale pour une violation claire du RGPD, des questions de proportionnalité, de nécessité, etc. Mais voilà, donc ça, par exemple, c'est des questions sur de la reconnaissance faciale dans l'espace public, mais il y a aussi des entreprises qui vont vendre des solutions de ce qu'on appelle la vidéosurveillance automatisée, ce que les promoteurs appellent de la vidéosurveillance intelligente, donc en gros de rajouter aux caméras de vidéosurveillance des logiciels qui vont faire de l'analyse de ce qu'elles voient. Alors cette analyse, ça peut être la reconnaissance faciale, mais ça peut aussi être, par exemple, l'analyse de comportement. Et donc on a des volontés d'expérimentation dans les gares, et certaines qui ont été mises en place, pour voir les comportements dits anormaux. Une personne qui, par exemple, courirait à contresens, ou alors pour détecter un peu des bruits qui sont anormaux, comme ça avait pu être le cas à Saint-Étienne. Voilà, on va prendre la bande son classique du lieu, et puis si à un moment il y a des sons qui sortent de ce moment classique, bah dans ces cas-là on va faire intervenir les forces de l'ordre. Ça, c'est une expérimentation que Saint-Étienne voulait lancer, auquel on s'en est prise et qui a été un peu mise de côté aussi. Mais vraiment, on a plein d'entreprises comme Thales, comme Idemia, comme Touhy, comme Datacalab, bref, des entreprises françaises qui essayent de vendre des solutions de vidéosurveillance automatisées. Et en ce moment, c'est le cas notamment à Châtelet, toujours dans le cadre de la crise sanitaire où ils profitent de ces moments-là pour expérimenter leurs solutions. Voilà, mais il y a vraiment plein de petits cas. Et donc, vu que nous, on est incapable de la quadrature, hein, ça reste une petite association, hein, on a 5 salariés, une petite trentaine de membres, et voilà, on fait avec ce qu'on a. Alors, il y a des gens qui, enfin voilà, ça reste, on a des petits moyens, mais on peut faire des choses, mais on peut clairement pas aller dans chaque ville pour s'attaquer à tous les projets. Donc, on a développé ce projet, donc Technopolis, qui a notamment été lancé avec d'autres associations, donc dans le cadre des lycées, enfin en gros dans le cadre du contentieux sur la reconnaissance faciale à Nice-Marseille, il y avait aussi la Ligue des droits de l'homme et les syndicats de parents d'élèves. Je ne vais pas avoir les noms là, mais vous verrez les voir sur Technopolis, désolé. Mais voilà, donc pour que, en fait, à l'échelon de chaque ville, les personnes qui se sentent concernées par ces problématiques puissent se parler, puissent déjà identifier les projets qui sont mis en œuvre, quelles sont les entreprises derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière, éventuellement aller récupérer les documents administratifs pour qu'on voit ce qu'il y a dedans, et derrière leur donner des armes aussi bien politiques que juridiques pour essayer de s'y opposer et de faire ça ensemble, en fait, hein, les personnes qui veulent lutter contre, voilà, donc dans le cas de Saint-Etienne notamment, il y a clairement du lien fait pour limiter le déploiement de ce projet d'écoute automatique pour à des fins de contrôle policier. Donc nous, c'est vraiment un projet qui nous semble hyper important et qui aurait besoin de nous dépasser fortement. Mmh. On l'anime lourdement, mais il y a des choses qui se font aussi sans la quadrature dedans, et c'est très bien, parce qu'il y a un vrai besoin de réaction générale contre ce type de projet et mettre un frein à ces projets technopolitiques.
Oui, donc si je comprends bien, là, un des buts, en tout cas, de cette plateforme, c'est déjà, en effet, d'informer sur ce qui se passe vraiment près de chez soi, parce que là, on peut voir, on peut aussi regarder par région, par ville, etc., ou par type d'entreprise. Donc c'est très concret, c'est très factuel. Donc ça, ça permet vraiment de se dire que c'est pas un mythe ou un côté parano, etc. Là, voilà, que c'est déjà vraiment bien en place. C'est une tendance qui va vraiment se poursuivre. Et aussi, justement, peut-être, parce que tu le dis, vous êtes une petite association, mais déjà, c'est assez impressionnant et remarquable, bah, du coup, les victoires, ou des fois même le fait que des lois soient repoussées, décalées, reportées, pour l'ensemble, là je parle des citoyens en France, c'est vraiment déjà impressionnant que, voilà, juste 30 personnes, je crois que vous êtes à peu près 30 membres, réussissent à faire ça. Sur, voilà, je sais plus combien on est en France, mais 60 millions. Donc du coup, il suffirait que justement d'autres personnes, organisations, associations, collectifs, peut-être un peu partout, répartis en région ou plus locales ou autres, puissent aussi s'emparer de cet outil, collaborer avec vous, puis avec les autres organismes qui ont déjà signé le manifeste Technopolis, pour peut-être justement pouvoir mieux informer et mieux protéger, mieux défendre les libertés, et puis se prémunir de cette société Technopolis qui arrive. On arrive déjà à la fin de l'émission. Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer pour conclure ?
Ah bah sur ces questions, vraiment, je vous invite je pourrais dire que la quadrature se finance majoritairement avec les dons et qu'il ne faut pas hésiter à nous soutenir, mais j'inviterai aussi à rejoindre le forum de Technopolis et à voir s'il n'y a pas des gens près de chez nous qui travaillent déjà sur ces questions à l'échelle locale et de se joindre à leur combat, ou éventuellement de commencer ce combat, parce que malheureusement c'est vraiment partout en France et pas que en France, quoi. Voilà, donc c'est un message d'engagement que je passerai. Ouais.
Eh bien, le message, j'espère, va être entendu. Pour finir cette émission, nous allons vous lire le manifeste publié sur le site Technopolis. Manifeste, résister à la surveillance totale de nos villes et de nos vies. Partout sur le territoire français, la Smart City révèle son vrai visage. Celui d'une mise sur surveillance totale de l'espace urbain à des fins policières. À Toulouse, Valenciennes ou Paris, on expérimente la vidéosurveillance réputée intelligente, car fondée sur le traitement automatisé des flux vidéo pour imposer sa reconnaissance faciale. À Saint-Etienne, une start-up s'allie avec la mairie pour déployer des micros dans l'espace urbain afin d'alerter la police en cas de bruit suspect. À Marseille ou Nice, des industriels voraces comme Thales ou Engie avance main dans la main avec les élus pour pousser leur projet de Safe City, sorte de couteau suisse sécuritaire qui va de la reconnaissance des émotions dans l'espace public urbain à l'interconnexion massive de bases de données à des fins de police prédictive, en passant par la surveillance des réseaux sociaux. Les nouvelles technologies informatiques comme le big data et l'intelligence artificielle sont la clé de voûte de ces différents projets. Ce sont elles qui doivent permettre de faire sens de toutes les données que l'on saura produire ou collecter, établir des corrélations, faire des recoupages statistiques, tracer des individus ou administrer des lieux. La Smart City fait ainsi de la technopolis notre futur. Sous couvert d'optimisation et d'aide à la décision, elle transforme l'urbanité tout entière pour en faire une vaste entreprise de surveillance. Une surveillance macroscopique d'abord, dédiée à un pilotage serré en temps réel des flux de population et de marchandises, à une gestion centralisée, depuis un centre de commandement hyperconnecté, puis une surveillance rapprochée des individus et des groupes dès que des comportements dits suspects sont détectés. Les appareils répressifs pourront fondre sur eux, préempter la menace et réprimer la moindre petite infraction à l'ordre public. Ou à l'inverse, récompenser les citoyens jugés vertueux. Sauf qu'il suffit de regarder dans le miroir que nous tendent l'histoire ou d'autres régions du monde pour savoir à quoi la technopolis nous conduit. Renforcement des formes de discrimination et de ségrégation, musellement des mouvements sociaux et dépolitisation de l'espace public, automatisation de la police et du déni de justice, déshumanisation toujours plus poussée des rapports sociaux. Tout cela et plus encore au prix d'un gigantesque gâchis financier et écologique qui ne servira qu'à conforter le pouvoir des marchands de la peur et à maquiller le plus longtemps possible l'ineptie de leur politique. Les technocrates misent donc sur le plan et la machine pour réguler nos villes et nos vies. En lieu et place de la police, entendue comme cité démocratique, comme espace pluraliste, lieu de déambulation, de rencontres impromptues et de confrontation à l'altérité, ils mettent la ville sous coupe réglée. La technopolis ressemble à un gigantesque tube à essai, dans lequel les formes les plus avancées du contrôle social pourront être mises au point. Contre cette dystopie que préparent ceux qui prétendent nous gouverner, nous appelons à une résistance systématique.
C'était Tic et Tic, l'émission qui traque l'impact de la tech à travers ses tocs.